Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, profitez-en, nous sommes vendredi et vous le savez, en deuxième partie d'émission, ce sera la Libre Antenne, l'occasion pour vous tous de commenter l'actualité de votre choix, de nous interpeller sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine et vous êtes toujours aussi nombreux ce matin à nous contacter du Tchad où le président Mahamat Idriss Déby a été élevé au rang de maréchal, une décision qui fait polémique, des réactions également sur la nouvelle alternance politique au Ghana où c'est rare quand même pour être signalé. Le président, le candidat du parti au pouvoir a immédiatement reconnu sa défaite à l'élection présidentielle avant même que les résultats officiels ne soient publiés. Plusieurs d'entre vous nous interpellent sur la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie et je vois que certains souhaitent déjà nous livrer leurs pronostics en vue du ballon d'or africain qui sera sacré meilleur footballeur africain de l'année. La cérémonie aura lieu lundi soir à Marrakech. Voilà, les sujets ne manquent pas. La Libre Antenne, c'est donc à partir de 8h40 temps universel. Vous pouvez continuer à nous appeler 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction. Justin est avec nous au standard. Bonjour Justin.
Bonjour Monsieur Juan Gomez et mon mentor et toute l'équipe d'Appel sur l'actualité, sans oublier Madame Charlotte Idrac.
Ah, Charlotte Idrac, qu'on retrouvera certainement un peu plus tard dans la journée, puisqu'elle présente les journaux. Merci de penser à l'ensemble de l'équipe de RFI. Justin, vous avez des questions sur la Zambie. Voilà un pays qui est incapable de rembourser ses dettes.
Tout à fait, Monsieur Juan. À Zambie, le gouvernement a signé le premier accord bilatéral qui vient concrétiser la restructuration de sa dette. À cela, j'ai trois questions, M. Juan.
Oui.
Comment est-elle processus a-t-il été possible et pourquoi la Zambie est-elle le premier pays à en bénéficier?
Alors, c'est vrai que cet accord, en tout cas, représente une bouffée d'air frais hein, pour les finances du pays. Bonjour Charlotte Cosset.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, journaliste au service économie de RFI. La Zambie a effectivement obtenu que 90% de sa dette soit réaménagée. Comment un tel processus a-t-il été possible?
Eh bien, tout simplement parce que déjà, la Zambie en a fait la demande en 2020. Elle est en défaut de paiement. Ça veut dire quoi? Eh bien, à cette date, elle ne peut plus rembourser ses emprunts. Elle est alors contrainte de trouver des solutions. Dans ce cas, dès le 1er février 2021, la Zambie sollicite officiellement ce qu'on appelle le Club de Paris, qui est co-présidé par la France. C'est une instance informelle qui regroupe une vingtaine de pays. Il se définit comme le principal forum de restructuration des dettes des États. Et dans ce cadre commun, qui regroupe essentiellement des pays du G20, les États cherchent des solutions coordonnées. Et donc, le processus est possible pour la Zambie, car le Club de Paris notamment, mais pas seulement, l'ensemble de ses créanciers ont accepté de se mettre autour d'une table et de trouver des solutions.
Alors, contrairement à ce que disait à l'instant Justin, la Zambie n'est pas le premier pays à bénéficier
tout à fait,
hein, de ce processus.
Effectivement, après la crise du Covid-19 qui a déclenché une crise de dette dans plein d'États, hein, pas seulement sur le continent, le Tchad est le premier de la lignée à avoir restructuré sa dette en novembre 2022.
Ouais, en tout cas, c'est vrai que la Zambie est vraiment mis en avant.
Bah, il fait un peu cas d'école parce que ça complexité, sa perplexité est très particulière. En 2020, la Zambie doit de l'argent à de nombreux créanciers, des États, des institutions comme le FMI, la Banque mondiale, des acteurs privés. C'est un millefeuille de créanciers plus ou moins clairement identifiés, avec des conditions d'emprunt parfois très opaques. La spécificité également, c'est qu'une partie très importante de cette dette est détenue par des créanciers extérieurs aux membres du Club de Paris, notamment la Chine et l'Inde. Donc il a fallu que tous ces acteurs se mettent d'accord, malgré des intérêts et des modes de fonctionnement bien différents.
Ouais, c'est donc un processus long de 3 ans qui finalement est en train d'aboutir.
Exactement. Alors on n'efface pas hein, la dette de la Zambie, qu'on soit bien
milliards,
d'accord.
Hein. 30 milliards de dollars
un peu
de dette.
Ouais, exactement. Plus, ouais. Et en fait, cet accord prévoit que pendant les 3 premières années, la Zambie n'effectue pas de remboursement. Ça veut dire 3 années dites de grâce qui vont lui permettre d'investir dans les domaines essentiels préférentielles. Et puis, des remboursements qui vont se faire sur 20 ans plutôt que 10, avec des taux d'intérêt bien moins importants. Donc, toutes ces mesures vont être effectives grâce à la signature d'accords bilatéraux avec chacun de ses créanciers. Et donc, la France a été le premier à signer le week-end dernier.
Justin, vous disiez avoir trois questions. On vous écoute donc pour la dernière.
Bien évidemment, M. Wan, peut-on voir ce genre de restructuration avec d'autres pays africains ?
Eh bien oui, Justin, on voit que la réussite du cas zambien ouvre évidemment la voie à d'autres restructurations de dettes de ce type sur le continent. On a en tête donc le Ghana et l'Éthiopie, pardon, qui devraient être les prochains. Ils ont déjà fait appel au Club de Paris pour restructurer leurs dettes. Et surtout, le fait que la Chine, qui est souvent accusée de piéger les États par le poids d'une dette impossible à rembourser, a contribué dans le cas de la Zambie à aboutir à cette restructuration. Et donc, c'est un signal très positif.
Voilà Justin pour les explications de Charlotte Cosset. Êtes-vous satisfait ? Avez-vous tout compris ?
J'ai très bien compris comme l'eau de la roche, M. Wan.
Bon, écoutez, comme j'ai pas compris la référence. Vous avez tout compris comme ?
Oui, j'ai été très clair comme l'eau de la roche.
Ah, comme l'eau de roche, évidemment. Oui, merci Justin de vos encouragements. À très vite. Rappelez-nous quand vous le souhaitez, Charlotte Cosset. Bonne journée.
Merci à vous.
Et vous qui nous écoutez, si vous avez des questions sur l'actualité, surtout ne restez pas dans le doute. Faites comme Justin, vous nous appelez ou vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Sans oublier, je rappelle, je le dis souvent, mais c'est important, quand vous nous envoyez vos questions ou vos commentaires sur Facebook, envoyez-nous votre numéro de téléphone en message privé. Ça évitera que tout le monde puisse avoir accès à vos coordonnées. Personnel. Esdras Dikoumana du service Afrique de RFI s'installe dans ce studio. Soyez le bienvenu Esdras, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous suivez de près l'actualité au Burundi et on a justement des questions concernant ce pays. Junior, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan Gomez et bonjour Esdras Dikoumana.
Vous êtes à Mons, en Belgique ?
Oui, je suis en déplacement à Mons.
Très bien, écoutez, vous avez le droit de vous déplacer où vous voulez. En tout cas, merci de rester fidèle à RFI lors de vos déplacements. Ouais. Quelles sont vos questions sur le Burundi, Junior ?
Alors, au Burundi, des nouvelles règles empêchent une fois de plus l'opposant Agathon Rwasa d'être candidat. À ce propos, je voulais savoir, peut-il encore contourner ces mesures et se présenter aux élections législatives prochaines ?
Oui.
Et pourquoi les autorités burundaises s'acharne depuis des années contre Rwasa.
Ouais, c'est vrai que la question que tout le monde se pose est de savoir si l'opposant historique pourra tout de même se présenter aux législatives du 5 juin prochain, Esdras Dikoumana. En tout cas, pour les proches d'Agathon Rwasa, les nouveaux critères pour être candidat sont, je cite, « taillés sur mesure pour l'exclure de la compétition ». Aidez-nous à comprendre, Esdras, en nous rappelant d'abord ces nouvelles conditions exigées pour être candidat.
Eh bien, c'est un décret présidentiel qui convoque les électeurs pour les élections législatives et communales du 5 juin prochain qui les a bien clarifiés. Il s'agit notamment d'une interdiction de coalition d'indépendants. Agathon Rwasa était de sortie deuxième des élections en 2015 sous une coalition d'indépendants. Il avait été évincé de son parti quelques années plus tôt. D'accord. Ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure qui a été introduite, c'est l'interdiction pour un cadre d'un parti politique, lorsque ce cadre d'un parti politique démissionne ou est limogé de son parti, il ne peut pas se présenter aux élections législatives avant une période de 2 ans.
Oui.
Très, très clairement, 2 ans.
Or,
Agathon Rwasa a été évincé de son nouveau parti, le CNL, au mois de mars de cette année, il était parti en voyage à l'étranger, Agathon Rwasa, lorsqu'il a quelques cadres de son parti, qui étaient
des frondeurs,
donc organise un congrès sous la protection du ministère de l'Intérieur, notamment, etc. Eh bien, il est évincé. Lorsqu'il revient, le ministre de l'Intérieur a déjà pris acte de la décision. Au Burundi, lorsque le ministre de l'Intérieur prend une telle décision, eh bien, c'est lui qui décide de qui, finalement, est président de la partie.
Donc, Agathon Rwasa ne remplit pas ce critère donc, des 2 ans.
Absolument. Et donc,
théoriquement, il est exclu. Est-ce qu'il va pouvoir, quand même, malgré tout, essayer de contourner cette nouvelle mesure ?
Oui, alors Agathon Rwasa et ses lieutenants avec qui j'ai parlé, ne désespèrent pas de trouver une solution pour contourner cette mesure. Ils ne veulent pas en parler pour le moment.
Mm-hmm.
Mais j'ai discuté, par exemple, avec un politologue qui me disait, par exemple, ils peuvent décider de se présenter sur la liste d'un autre parti politique. La loi ne l'interdit pas. Agathon Rwasa qui est populaire, ce n'est pas nécessairement le parti. Il pense que ses fidèles peuvent le suivre.
Il est populaire, il est l'opposant historique au Burundi. Pourquoi les autorités s'acharnent, et je reprends là la question, hein, les mots de Junior, s'acharnent autant sur Rwasa depuis tant d'années?
Eh bien, il faut que, donc, comme vous venez de le dire, hein, bien Agathon Rwasa est le principal opposant au président actuel. Hein, c'est Evariste Ndayishimiye, avant lui, à son prédécesseur Pierre Nkurunziza. Leur antagonisme existe depuis une trentaine d'années parce qu'ils appartiennent à deux camps différents. Il s'agit d'un côté du CNDD-FDD, l'ex-principale rébellion Hutu du Burundi, qui est née pendant la guerre civile, qui a débuté en 1993 au Burundi, alors que Agathon Rwasa est le leader historique du plus ancien mouvement rebelle Hutu du Burundi, le Palipe Hutu FNL du Burundi, qui est né en 1980, c'est-à-dire 10 ans avant, oui. 13 ans avant la guerre civile.
Mais comment peut-on justement expliquer le plus simplement possible cet antagonisme entre les deux camps?
Eh bien, les deux camps luttent pour le leadership de la communauté Hutu, qui représente, selon les chiffres qui datent de la colonisation, 85% de la population burundaise. En fait, en supposant, nous sommes dans un système électoral aujourd'hui, celui qui a le leadership gagne nécessairement les élections. Donc, il y a un véritable antagonisme. Ils se sont affrontés à plusieurs reprises pendant la guerre civile et après, lorsque le CNDD-FDD a gagné les élections de 2005. À ce moment-là, le FNL va continuer la lutte armée pendant quelques années. Mais après, eh bien, lorsque le FNL gagne, signe les accords de cessez-le-feu avec le gouvernement, eh bien, cette répression va se poursuivre. Et selon les organisations des droits de l'homme, eh bien, des centaines, voire des milliers de militants d'Agathon Rwasa ont été tués, sont portés disparus depuis l'accession du CNDD-FDD au pouvoir. Des milliers d'autres ont été arrêtés arbitrairement, certains torturés, d'autres condamnés à la prison, où ils croupissent jusqu'ici. Et puis, il y a des dizaines de milliers d'autres qui ont fui en exil. Cette répression se poursuit jusqu'ici, malgré les dénégations du pouvoir.
Bon, voilà, on a essayé d'être clair. Le sujet est complexe. Junior, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, merci pour ces éclaircissements. Et bon courage à Rwasa.
Et bonne journée à vous, à Mons, Junior. Bon, merci, 9h22 à Paris. À très vite. Et Ezra Zikoumana.
Merci.
Allez, on repasse au standard. Hervé est à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Vous avez des questions concernant le nouveau rapport d'Amnesty International sur la RDC?
Oui. J'ai entendu parler du nouveau rapport d'Amnesty International sur l'implication de l'armée congolaise dans un massacre de Goma en 2023.
Oui.
Quel élément l'ONG possède-t-elle pour accuser l'armée des possibles crimes contre l'humanité?
Les possibles crimes contre l'humanité perpétrés effectivement par des hauts responsables des forces armées lors d'un massacre le 30 août 2023. Bonjour Jean Maubert Senga.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à vos auditeurs.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur sur la RDC à Amnesty International. Ce 30 août 2023, l'armée congolaise a donc ouvert le feu sur des civils qui s'apprêtaient à manifester à Goma pour réclamer le départ des casques bleus. À l'époque, l'armée avait parlé d'une bévue de la part de quelques soldats. Vous avez mené l'enquête à Amnesty International et vos conclusions sont sans appel. Vous ne parlez pas de bévue, clairement.
Alors oui, absolument. Et c'est un élément important pour parler de possibles crimes contre l'humanité en réponse à la question de votre auditeur. Nous avons trouvé des éléments pertinents et très nombreux montrant que le massacre du 30 août à Goma a été le résultat d'une opération minutieusement préparée pendant plusieurs semaines par les autorités militaires. Qui a donc abouti à ce massacre.
Ouais.
Le crime contre l'humanité dans cet élément, c'est le caractère préparé par l'État ou par des agents de l'État, et en l'occurrence des officiers de l'armée congolaise, le gouverneur de l'époque, le commandant de la garde républicaine, le commandant des forces spéciales et très probablement d'autres officiels que nous n'avons pas forcément identifiés nommément.
Vous avez enquêté pendant un an. Vous avez examiné les scènes de crime. Vous avez interrogé plus de 70 personnes. Vous avez même vérifié des vidéos, des photos, des massacres. Vous avez analysé également des images satellites pour arriver à cette conclusion.
Absolument. Nous avons pris une année, c'est beaucoup de temps, mais c'était un temps nécessaire parce que c'est un massacre, c'est vrai, qui s'est passé en pleine ville, mais qui a été également entouré de beaucoup de mystères. La plupart des documents auxquels nous avons eu accès étaient des documents confidentiels des Nations Unies et des autorités congolaises. Il était également important de reconstituer le théâtre exact des faits pour déterminer si, oui ou non, par exemple, les membres de ce groupe politico-militaire étaient armés.
Oui, alors, s'ils ont membres politico-militaires, puisque les civils qui ont été tués officiellement, ils sont au nombre de 56, appartenaient à un groupe mystico-religieux, autrement dit une secte. Visiblement, ils n'étaient pas armés, mais il y a des questions qui se posent encore aujourd'hui.
Alors, justement, et c'est là le voile que nous levons sur l'autre voile que nous levons. Les membres de ce groupe n'étaient pas armés. Et de là, d'ailleurs, cela a été confirmé par la justice congolaise qui a mené une enquête, certes bâclée, partielle, mais qui a quand même donné certains éléments de lumière. Ils n'étaient pas armés. Il y a eu au moins un policier qui a été lynché, un officier de police qui a été lynché, mais cela est arrivé au milieu du massacre. Ce n'était pas la cause du massacre, ce n'était pas la cause de l'intervention de l'armée.
Alors qu'initialement, l'armée avait dit être intervenue après le lynchage, justement, de ce policier. En tout cas, Jean-Maubert Senga, vos conclusions sont à lire, évidemment, sur le site d'Amnesty International, mais aussi sur RFI.fr. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Hervé, bonne journée à Kinshasa. Et j'ai le plaisir, à 8h27, temps universel, d'accueillir Jessica Taïeb. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Comme tous les vendredis, vous nous rejoignez pour nous parler du sujet qui fait le buzz cette semaine sur les réseaux sociaux. Vous les avez scrutés depuis lundi et vous revenez ce matin sur une affaire qui n'a pas fait la une des médias mais qui a beaucoup circulé sur les réseaux. Des tweets vus plus de 6 millions de fois, des milliers de partages et autant de commentaires.
L'histoire de Mauricia Guenengay suscite depuis quelques jours une vague d'émotions sur les réseaux sociaux. L'affaire n'a éclaté au grand jour que cette semaine, mais tout commence dans la nuit du 1er novembre à Dijon, dans le centre-est de la France. Mauricia est enceinte, elle commence à ressentir des contractions de plus en plus intenses. Elle décide donc de se rendre avec son compagnon et sa petite-fille de 4 ans à l'hôpital privé Dijon-Bourgogne, l'établissement qu'elle a choisi pour accoucher. Mais une fois aux urgences, on lui refuse l'entrée. Le caractère imminent de l'accouchement n'est pas identifié selon le personnel médical. L'accueil la redirige alors vers la maternité, quelques mètres plus loin. Seulement voilà, la jeune femme n'y arrivera jamais. Elle ne peut plus marcher et commence à sentir la tête du bébé avec sa main. Elle accouche finalement à l'extérieur, sur le parking de l'hôpital.
Heureusement, tout s'est bien terminé. Le bébé, un garçon, est en bonne santé. Mais cette semaine, donc un mois après, elle a décidé de médiatiser son accouchement pour éviter qu'une telle situation se reproduise. Et là, effectivement, il y a eu énormément de réactions.
Et c'est l'indignation qui domine sur les réseaux sociaux. Je vous lis quelques commentaires, vous allez voir qu'il y a beaucoup de colère. C'est scandaleux que ça puisse arriver en France en 2024. Il doit y avoir une vraie remise en question. On lit aussi de l'inquiétude. Imaginez accoucher dehors par 3 degrés. Heureusement qu'il n'y a rien eu de grave pour la maman et le bébé. Et cet autre internaute, c'est lamentable de la part de l'hôpital. J'espère qu'elle obtiendra réparation. Il faut un énorme chèque pour dommages et intérêts.
Ouais, le couple envisage effectivement de porter plainte contre l'hôpital qui, de son côté, s'est excusé et a reconnu, je cite, un dysfonctionnement.
Et on verra d'ailleurs s'il y a un procès, si les charges qui seront retenues par la justice, on verra quelles charges seront retenues par la justice. En tout cas, parmi les commentaires, beaucoup reviennent sur la couleur de peau de Mauricia Guenengay. C'est une femme noire et pour certains, c'est un élément clé. Je vous cite cet internaute. Hélas, quand je vois la dame, je comprends mieux pourquoi elle a été refoulée. Ça suffit, le délit de faciès. Et celui-ci, comme très souvent dans les cas de refus de soins, la victime est noire.
Ouais, et il y a eu aussi, Jessica, des commentaires, des internautes qui tentent de relativiser ce qui est arrivé.
Oui, d'après cet utilisateur, il faut poser les bonnes questions. Si vous allez aux mauvaises urgences, vous allez vous faire refouler. C'est comme ça partout. Peu importe votre couleur.
Bon, en tout cas, ce n'est pas la première fois qu'une affaire de négligence médicale enflamme la toile. Merci beaucoup, Jessica Taïeb.
Merci.
Un œil sur les réseaux à réécouter sur l'application RFI Pure Radio et sur notre chaîne WhatsApp RFI Appel sur l'actualité. Peut-être que la chronique de Jessica vous donne envie de réagir. Eh bien, on se retrouve dans 10 minutes.